de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous?
Ravie de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « L'ambassade d'Indonésie à Mascate dit que les citoyens indonésiens au Yémen sont en sécurité mais préparent toujours des plans d'urgence. » Le gouvernement malaisien conseille à ses citoyens de reporter leur voyage au Yémen. La FAA enquête officiellement sur le Boeing 737 après que la vitre de l'avion soit tombée pendant le vol. Le navire de guerre indonésien France Kaisepo 368 a terminé une mission de paix au Liban. L'Indonésien invite le Vietnam à renforcer sa coopération industrielle. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. L'ambassade de la République d'Indonésie à Mascate, qui exerce la mission diplomatique de la République d'Indonésie auprès du Sultanat d'Oman et de la République du Yémen, a déclaré qu'aucun citoyen indonésien n'a été victime des attaques qui s'est produite en plusieurs points de la région yéménite. Le ministère des Affaires étrangères, dans sa déclaration officielle à Jakarta, vendredi, a déclaré que l'ambassade d'Indonésie à Mascate continue de suivre l'évolution de la situation sécuritaire au Yémen et la condition des citoyens indonésiens. Auparavant, on a rapporté que des attaques avaient eu lieu contre plusieurs points du Yémen où opèrent les outils, notamment Sana'a, Hudaïda, Damar, Sa'ad Hajjah et Taiz. L'attaque a été menée par une combinaison de troupes américaines et anglaises avec le soutien de plusieurs autres pays. Le ministère des Affaires étrangères a ajouté que l'ambassade d'Indonésie à Mascate continuera de se coordonner avec les autorités locales et de communiquer avec la communauté indonésienne pour surveiller la condition et la sécurité des citoyens indonésiens. Basé sur des données autodéclarées, 4866 citoyens indonésiens sont domiciliés au Yémen, dont la majorité sont des étudiants de la région de Tarim Hadramaut. Le gouvernement malaisien, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, conseille à tous ses citoyens de reporter tout voyage non essentiel au Yémen. Le ministère malaisien des Affaires étrangères a déclaré samedi, dans un communiqué de presse à Kuala Lumpur, que l'ambassade de Malaisie à Mascate surveillait les dernières situations au Yémen à la suite des frappes aériennes menées par les forces militaires américaines et anglaises ciblant le territoire houthi le 11 janvier 2024. L'ambassade de Malaisie continue de prendre contact avec ses citoyens vivant au Yémen, dont la plupart sont des étudiants. la condition des citoyens malaisiens est sûre et loin des zones de conflit. Cependant, le gouvernement malaisien exhorte ses citoyens au Yémen à être vigilants, à suivre ses politiques et à surveiller les derniers développements du gouvernement local. La Federal Aviation Administration, ou abrégée en FAA, des États-Unis a annoncé une enquête sur le Boeing 737 MAX 9 après que le panneau de fenêtre de l'avion s'est détaché après le décollage de l'aéroport de Portland, l'Oregon. Ce Boeing 737 MAX 9 a été exploité par Alaska Airlines. Le FAA des États-Unis a déclaré dans un communiqué rapporté par l'AFP vendredi que cet incident n'aurait jamais dû se produire et ne devrait plus jamais se reproduire. Il n'y a eu aucun mort ni blessé grave après qu'Alaska Airlines ait effectué un atterrissage d'urgence lors de l'incident du 5 janvier. Mais les enquêteurs du Bureau national de la sécurité des transports ont déclaré que l'incident aurait pu entraîner de graves dommages. Le navire de guerre indonésien France Kaisipo, tiré 368, est la force opérationnelle de l'armée nationale Konga MTF 28-N, ou UNIFIL, ont accompli une mission en tant que force de maintien de la paix au Liban. Ensuite, KRI France Kaisipo, tiré 368, est retourné dans son pays natal. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie au Liban, Hajrianto Y. Tohari, a exprimé vendredi dans son communiqué de presse sa fierté pour tous les dévouements, les services et les réalisations de tous les soldats du navire de guerre indonésien ou KRI Kaisipo 368. Surtout lors de l'exécution des tâches mandatées par l'Organisation des Nations Unies. En dehors de cela, il a joué un rôle important dans les missions diplomatiques en tant qu'ambassadeur culturel pour aider à promouvoir les arts et la culture indonésienne lors de son séjour au Liban. Pendant ce temps, le commandant du KRI France Kaisipo 368, le lieutenant-colonel John David Nalasakti Sondak, a exprimé ses remerciements à l'ambassadeur indonésien du LBBP au Liban, y compris toute la famille élargie de l'ambassade d'Indonésie à Beyrouth, toutes les formes de coopération et d'assistance au cours de cette année. L'envoi de ce groupe de travail est une manifestation du professionnalisme et de l'attitude réactive de l'armée nationale dans le maintien de la paix mondiale. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de l'Industrie, invite le Vietnam à renforcer la coopération bilatérale dans le secteur industriel, notamment en encourageant l'augmentation des nouveaux investissements dans le secteur industriel, ce qui conduira à la croissance économique des deux pays. Cela a été transmis lors d'une réunion entre le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, et le ministre de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, Nguyen Hong Dien, à Hanoï, au Vietnam, dans le cadre de l'ordre du jour du ministre de l'Industrie, accompagnant le président Joko Widodo pour une visite d'État au Vietnam. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, dans sa déclaration officielle reçue vendredi à Jakarta, a déclaré que le Vietnam était l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Indonésie. Dans l'ensemble, le commerce total entre l'Indonésie et le Vietnam continue d'augmenter. En 2022, la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays s'élèvera à 13,3 milliards de dollars américains. À cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a salué la proposition du ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang, de collaborer dans le secteur industriel, car le Vietnam a beaucoup à apprendre de l'Indonésie. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Thank you.
Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Commémorant 75 ans de relations diplomatiques, l'Indonésie et les Philippines conviennent de renforcer leur coopération dans un certain nombre de domaines. » Le président indonésien Joko Widodo et une délégation limitée ont effectué mardi une série de visites dans trois pays d'Asie du Sud-Est, à savoir les Philippines, le Vietnam et Brunei Darussalam. C'était une visite de retour après la dernière visite il y a 5 ans. Aux Philippines, le président Joko Widodo a rencontré le président Ferdinand Romualdez Marcos et cette réunion avait lieu pour célébrer 75 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Le président Joko Widodo interprète le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et les Philippines comme un élan pour renforcer la coopération concrète entre les deux pays. Dans une déclaration conjointe prononcée mercredi, le président Joko Widodo a déclaré que les deux pays étaient convenus de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la politique et de la sécurité, de l'économie et du renforcement de la centralité de l'ASEAN. Dans un communiqué de presse conjoint avec le président Ferdinand Marcos au palais Malacanang à Manille aux Philippines, le président Joko Widodo a mentionné trois domaines de coopération qui seraient renforcés par les deux pays. Dans le domaine politique et sécuritaire, nous sommes convenus de renforcer la coopération frontalière et j'ai souligné l'importance d'encourager une révision accélérée de l'accord sur les patrouilles frontalières, ou BPA, et de l'accord sur les passages des frontières, ou BCA, et le règlement de la limite du plateau continental, ainsi que le renforcement de la coopération en matière de défense, y compris les équipements de défense. Tandis que dans le secteur économique, l'Indonésie et les Philippines ont convenu de continuer à ouvrir l'accès au marché, dont le but est d'accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. En outre, le président Joko Widodo a demandé le soutien des Philippines concernant les mesures de sécurité concernant les produits à base de café indonésien. Les deux pays sont également convenus de renforcer l'unité et la centralité de l'ASEAN. Selon le président indonésien Joko Widodo, l'ASEAN doit continuer à adhérer aux principes du droit international. À cet égard, le président philippin Ferdinand Marcos a déclaré que les deux chefs d'État avaient discuté d'événements régionaux d'intérêt mutuel, tels que le développement en mer de Chine méridionale et la coopération de l'ASEAN. Marcos a déclaré que les Philippines et l'Indonésie appellent tous à respecter le caractère universel de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer qui réglemente toutes les activités dans les mers et les océans. Il a également reconnu la contribution positive de l'Indonésie à la paix et au développement dans la région sud des Philippines, auparavant touchée par un conflit avec des groupes armés. Marcos espère que l'Indonésie pourra continuer à aider les Philippines à construire des institutions gouvernementales locales, en particulier dans la région autonome de Bangsamoro. Aujourd'hui, nous reconnaissons également la contribution de l'Indonésie à la paix et au développement aux Philippines du Sud. Alors que Mindanao s'efforce de bénéficier des bienfaits de la paix et de la démocratie, nous espérons que l'Indonésie continuera à fournir son aide pour la construction d'institutions gouvernementales locales, en particulier dans la région autonome de Bangsamoro. Par ailleurs, les deux chefs d'État ont également signé un protocole d'accord au secteur de l'énergie. Ferdinand Marcos a également déclaré qu'un autre protocole d'accord lié à la science et à la technologie était presque terminé. C'est tout la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 14 janvier. On commence par le 14 janvier 1907, le tremblement de terre à Kingston, Jamaïque. Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,2 a secoué la capitale de l'île de Jamaïque, Kingston, le 14 janvier 1907. Le tremblement de terre a causé la mort d'environ 1000 personnes et a causé environ 10 000 personnes sans abri et des dégâts matériels. Peu de temps après le tremblement de terre, un tsunami s'est produit sur la côte nord de la Jamaïque avec des vagues atteignant une hauteur d'environ 2 mètres. Cette catastrophe est devenue l'un des tremblements de terre les plus meurtriers dans l'histoire. Le 14 janvier 1953, Joseph Broz Tito a été nommé premier président de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Joseph Broz était un révolutionnaire communiste et un homme d'État yougoslave qui a occupé divers postes depuis 1943. Il a été nommé président de la Yougoslavie le 14 janvier 1953 et occupé ce poste jusqu'à sa mort le 4 mai 1980. Même si, au cours de son mandat, Tito a été critiqué pour son caractère autoritaire, certains historiens le considèrent comme un dictateur vertueux. Tito était une personnalité publique célèbre en Yougoslavie et dans le monde. Il est également considéré comme une figure unificatrice qui a réussi à maintenir l'intégrité de la Fédération yougoslave grâce à diverses politiques antérieures. Il a commencé à recevoir davantage d'attention de la part du monde lorsqu'il est devenu un pionnier du mouvement des noms alignés avec Sukarno d'Indonésie, Jawaharlal Nehru d'Inde et Gamal Abdel Nasser d'Égypte. Le 14 janvier 2016, une attaque terroriste à la bombe s'est produite à Jakarta. Le 14 janvier 2006, un incident terroriste à la bombe et des tirs ont eu lieu dans la zone autour de la Plaza Sarina, la rue de MH Tamrin, Jakarta Central, DKI Jakarta. Des explosions se sont produites à deux endroits, à savoir le parking de la tour Cakrawala, le bâtiment au nord de Sarina et un poste de police devant le bâtiment. 4 assaillants et 4 civils ont été tués et 24 autres ont été blessés à cause de l'attaque. 7 personnes ont été impliquées comme auteurs de l'attaque et l'organisation ISIS a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Sadar ku temukan wanita rupawani yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kau
Voice of Indonesia.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée « L'Indonésie a ajouté un billet pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ». Le Comité national olympique ou Comité olympique indonésien est fier que les Rouges et Blancs puissent ajouter des billets pour participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 après que l'athlète de tir Fatur Gustavian a obtenu le billet lors de son apparition dans le numéro de carabine 10 mètres masculin aux Jeux asiatiques de 2024 au championnat de pistolet au terrain de tir Senayan Jakarta mercredi. Fatur est le sixième athlète indonésien à confirmer sa présence à cet événement sportif mondial majeur après les archers Arif Dwi Pangestu et Diananda Hoirunisa, la gymnaste Rifda Irfana Lutfi et les grimpeurs Desak Madirita et Rahmat Adi Mulyono. Le président du CNO indonésien Raja Sabta Oktohari a déclaré mercredi dans une déclaration écrite à Jakarta que remporter le sixième billet pour les Jeux olympiques de Paris était un moment de fierté pour l'Indonésie. Selon Raja Sabta Oktohari, le week-end dernier, le CNO a annoncé la nomination du chef de mission des Jeux olympiques de Paris, à savoir Anindya Bakri. Puis, cette semaine, l'athlète indonésien Fatur a si bien réussi à profiter du tournoi de qualification olympique de Paris organisé en Indonésie qu'il a remporté un billet olympique. Fatur a décroché son billet olympique après s'être classé quatrième avec 208,3 points dans l'épreuve masculine de carabine à 10 mètres. La médaille d'or a été remportée par l'athlète chinoise Si Han Ma, qui a récolté 230,2 points. Pendant ce temps, l'argent a été remporté par l'athlète sud-coréen Choi Dae-han avec 229,9 points et le bronze a été remporté par l'athlète indien Rudrans Bepatil avec 228,7 points. Cependant, les deux billets olympiques en jeu au championnat d'Asie ont été attribués à Choi et Fatur parce que la Chine et l'Inde avaient reçu le quota maximum d'athlètes aux Jeux olympiques de Paris. Raja Sabta Oktohari a souligné que la lutte des athlètes indonésiens pour gagner des billets pour les Jeux olympiques est toujours en cours. Le CNO, par son groupe de travail, continuera également à superviser le processus de qualification avant que le rêve de l'Indonésie d'envoyer beaucoup d'athlètes à Paris puisse se réaliser. La même chose a également été dite par le chef de mission de l'équipe indonésienne pour les Jeux olympiques de Paris 2024, Anindya Bakri, qui s'est félicité du ticket supplémentaire de facture pour les Jeux olympiques. Elle espère qu'aux Jeux olympiques de 2024, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août, l'Indonésie entrera dans une nouvelle histoire en remportant plus de médailles d'or qu'auparavant. Il s'agit certainement d'un défi qui doit être relevé par le travail acharné et la solidarité.
Karena kamu aku rela menunggu semua, sungguh berat yang kurasa. Karena kamu aku tetap bertahan, meskipun kini engkau dipeluknya. Masih mungkinkah semua
Indonesia.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz, et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, la province de Jaffa de l'Ouest est une destination touristique populaire pour de nombreux touristes parce qu'il y a beaucoup d'attractions touristiques naturelles qu'on peut apprécier avec sa délicieuse cuisine typique. L'un des sites touristiques intéressants à visiter est Cianjur, qui a son propre charme et mérite d'être exploré en raison de son air frais et de sa nourriture unique. L'un d'eux est Rogan Soup. Le Rogan Soup est l'un des nombreux aliments typiques de Cianjur. Rogan est l'abréviation des principales matières premières de ce plat culinaire sucré, à savoir ro, rôti ou en français le pain, et gan, dawegan ou en français le genoux de coco. Pendant ce temps, la soupe est un aliment soupe. La soupe Rogan est un plat enveloppé dans des feuilles de bananier et a une texture humide ou veloutée et un goût sucré. Cette soupe, qui est un aliment soupe, consiste en l'ajout de genoa de coco, de lait de coco, de fruits de palmier et également des haricots verts bouillis. La soupe Rogan savoureuse provient du lait de coco et le goût sucré vient du sucre et du lait en poudre ou du lait concentré avec l'ajout de feuilles de pandan pour qu'elle soit délicieuse. Non seulement en termes de goût, l'arôme distinctif de feuilles de pandan dans la sauce et de feuilles de bananier dans l'emballage font de la soupe Rogan un parfait délice culinaire traditionnel de Cianjur. Chers auditeurs, pour faire cette soupe Rogan est assez simple. Tout d'abord, faites bouillir le lait de coco et les feuilles de pandan jusqu'à ce qu'ils bouillent et sentent bon. Puis ajoutez suffisamment de sucre cristallisé au lait de coco bouilli et remuez jusqu'à ce qu'il se dissolve. Après le sucre dissous, mettez le morceau de pain blanc dans le lait de coco. Remuez-le jusqu'à ce que le pain blanc soit absorbé et que le lait de coco commence à épaissir. Ensuite, ajoutez les haricots verts, le colan kali au mélange de lait de coco et du pain blanc. Mettez tous les ingrédients dans une feuille de bananier comme l'emballage, puis mettez la sauce au lait de coco mélangée à du lait. Après avoir été bien enveloppée, la soupe Rogan est ensuite mise dans une casserole pour cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Après avoir cuit et les feuilles de bananier changent de couleur, la soupe Rogan peut être retirée et servie. La soupe Rogan peut être dégustée tiède ou froide. Elle convient donc pour se rafraîchir quand il fait chaud.
Untuk cerita tentang kau dan aku, kau pergi tanpa pesan terakhir dariku yang menyertaimu. Kau selalu ku pergi jauh untuk hariku saat tak bersamamu. Kau selalu ku kenang dan selalu ku kenang. Oh, saat kau langkahkan kakimu untuk tinggalkanku dan kau pergi jauh untuk selamanya.
Indonesia.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Voici l'Indonésie en couleur dont le titre est « La plage Kelingking de Nusa Penida est l'une des meilleures plages de TripAdvisor ». La plage Kelingking ou Kelingking Bay à Nusa Penida, Bali, fait partie de la liste TripAdvisor de 25 plus belles plages du monde en 2024. Kelingking Bay occupe la 6e place. Les trois premiers sont Bahia do Sanso au Brésil, Eagle Bay à Aruba et Cable Bay en Australie. TripAdvisor Traveler Choice Best of the Best est décerné aux plages qui ont reçu les avis et opinions les plus remarquables de la communauté des voyageurs sur une période de 12 mois. Chaque gagnant a satisfait à des normes strictes de confiance et de sécurité. Moins de 1% des 8 millions d'annonces de TripAdvisor obtiennent la distinction Best of the Best, ce qui signifie le plus haut niveau d'excellence en matière de voyage. En trafic de TripAdvisor a écrit que la plage de Klinking à Nusa Penida est très idéale pour prendre des photos car elle offre une vue imprenable et des falaises qui attirent vraiment les touristes du monde entier. Les visites touristiques à Nusa Penida, qui est l'une des principales destinations touristiques de Bali, continue actuellement d'augmenter avec une visite moyenne de 2000 à 3000 touristes par jour. La plage de Klinking, située dans le village de Bunga Mekar, au district de Nusa Penida, à la région de Klungkung, offre une vue sur les falaises qui s'avancent dans la mer. La plage de sable blanc attire les touristes à venir à cet endroit. On l'appelle Klinking Beach ou la plage de l'auriculaire parce que la partie de la plage qui s'avance dans la mer ressemble à un auriculaire. Mais certains disent aussi qu'elle ressemble au cou d'un rhinosaure ou T-Rex si on le regarde dans l'eau. La particularité de cette plage réside dans ses falaises. Pour atteindre la plage, les visiteurs doivent descendre une falaise de 150 mètres de long, ce qui est assez difficile car la pente atteint 70 degrés.
Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, tak coba hubungiku, salah hatiku.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je parle d'une chanson de Hero et Dul Jailani. Dul Jailani est connu comme un jeune musicien et chanteur talentueux, le plus jeune fils de deux maestros de la musique indonésienne, Ahmad Dhani et Maya Estianti, qui a sorti plusieurs œuvres avec ses groupes de la Kilaki, Backdoor et Kodir. Pendant ce temps, Hero, composé de Bakes, Udet et Regi Kasmala, est un groupe qui a constamment travaillé sur la voie de la prédication musicale depuis 2019 et a produit plusieurs œuvres qui ont donné une nouvelle couleur à l'industrie de la musique religieuse en Indonésie par une touche d'arrangement pop énergique IDM ou musique de danse électronique. Le 1er janvier 2024, Dul Jailani et Hero ont sorti une chanson intitulée The Mute Aja ou Toxic avec une touche de musique pop électrique des années 80. Tous les arrangements ont été réalisés par Regi, tandis que les paroles ont été écrites par les trois membres d'Hero. À travers The Mute Aja ou Toxic, ils veulent tenter de révéler la réalité négative des réseaux sociaux. Dul représentant la génération Z et Hero représentant la génération Y veulent lancer une invitation positive, en particulier à la jeune génération, à maintenir leur santé mentale et celle des autres en ne perdant pas de temps, d'énergie et de pensée dans le cyberspace. Bon, chers auditeurs, voici Hero et Dul Jailani avec The Mute Aja ou Toxic. Bonne écoute!
Hidup dalam era digital, otak jadi kaya gak normal. Fokus cuma sama yang viral, viral. Begitu cepat gerakan jari, mengalahkan otak dan hati. Salah atau benar siapa peduli. Tenggelam dalam alam maya, lupa hidup di alam. Seketika waktu telah terbuang percuma.
Dimut aja
jadi toksik di hati.
Dimut aja
bikin capek sendiri.
Dimut aja
buang-buang energi.
Dimut aja
jangan korbankan kebahagiaan hidup. Jangan buang-buang waktumu.
Dimut aja.
Buka-buka aib sesama, udah jadi hal yang biasa. Buka aib diri sendiri, jadi tren yang luar biasa. Sibuk komentarin masalah, padahal bukan urusannya. Postingan yang positif kalah sama hal yang gak ada faedah. Diri dengan hidup mereka yang selalu tampak sempurna. Seakan lupa Tuhan telah cukupkan segalanya.
Dimut aja
jadi toksik di hati.
Dimut aja
bikin capek sendiri.
Kurangi cakap bila
tak perlu.
Jangan asal komen bila
tak cukup ilmu. Positive vibes
negatif dibuang. Konten gak penting,
jangan beri ruang.
Postingan sensitif
biar cepat tenar.
Bodo amat pokoknya bikin jadi viral. Ayo segera di mute dan di stop. Itu bisa bikin iman lo jadi drop. Sibuklah dengan koreksi diri. Dekat dengan pencipta
jadi solusi.
Supaya tetap di track
positivity
sebelum raga ini masuk ke bumi.
Tenggelam dalam alam maya, lupa hidup di alam nyata.
Dan seketika waktu telah
hidup di alam nyata, tenggelam dalam alam maya. Lupa hidup di alam nyata.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.